France Inter.
La chance que j'ai eue, entre guillemets, c'est que je suis arrivée à un moment où il n'y avait pas d'autres actrices comme moi. Des filles grosses de 20 piges, quoi, il n'y en avait pas. Très, très peu. Et il y avait des films qui en avaient besoin. Donc, c'est devenu une force d'être comme je suis. C'était devenu un avantage. Et donc, ça m'a permis de dire merde, quoi, finalement, parce que je ne rentrais pas dans ces stéréotypes. Il y a aussi une nouvelle génération, je trouve, qui n'est plus dans ce qu'on entend de la beauté au cinéma.
Il y a une lutte dans ma musique, mais en fait, je pense jamais à « je vais écrire cette chanson pour faire passer des valeurs ». Je suis quelqu'un d'assez intègre, je ne vais pas écrire déjà sur ce que je ne vis pas. Donc, c'est mes valeurs à moi, c'est-à-dire le vivre ensemble, les foutez-nous la paix, mon vécu de femme, mes déceptions amoureuses, l'éco-anxiété, enfin, des choses comme ça qui sont à la fois des choses qui m'intéressent et aussi des choses que j'éprouve dans mon corps et que, dont je fais sens en écrivant des chansons, quoi.
Elle remporte un grand succès au Théâtre des Bouffes parisiens à Paris avec sa mère Josiane Balasko et celui qui joue son mari, Riyad Ghami. Dans « Ça, c'est l'amour » de Jean-Robert Charrier, Marie-Lou Berry joue une femme victime d'un mari violent, une femme qui met du temps à sortir de cette emprise. Bonjour Marie-Lou Berry.
Bonjour.
J'ai presque envie de vous demander comment ça va et quand vous êtes arrivée en studio, j'avais presque envie de vous faire un gros câlin.
Merci. Oui, c'est vrai que c'est ce que me dit tout le monde, un peu tout le monde. Mais paradoxalement, ça va vraiment très, 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 très bien. C'est une pièce que je pourrais jouer vraiment des années. Et c'est très bizarre parce que, effectivement, les gens s'inquiètent souvent quand je sors de scène. Ça va,
oui.
C'est pas trop dur, ça doit être dur tous les soirs. Je pense que c'est plus dur pour Riyad. Qui joue mon mari, qui est le pervers narcissique.
En tout
violent,
cas, votre rôle est à la fois léger et lourd, puisque Jean-Robert Charrier a réussi à mêler de la comédie à ce qui est un drame, et on en parle dans un instant. Votre invitée est en face de vous, elle écrit, elle compose, elle chante. Bonjour Mathilde.
Bonjour.
Je ne sais pas si l'expression chanteuse engagée vous convient, mais vous chantez le corps des femmes, vous dénoncez la grossophobie, le cyberharcèlement, vous avez de la force, vous avez une voix, vous êtes une amoureuse du jazz et de la comédie musicale. Bienvenue dans le Grand Atelier.
France Inter. Le Grand Atelier. Vincent Josse.
Marie-Lou Berry, est-ce que vous rêvez qu'un jour on ne vous parle plus de votre mère ?
Ah, pas du tout, non. Ah bah non, moi j'aime beaucoup, je suis très heureuse de l'avoir pour maman et puis elle est formidable. Donc non, je ne fais pas partie de cette team. Oh non, ne me parlez pas de ma mère. Au contraire, non, je suis très fière, très heureuse. On s'entend très bien. Je suis très heureuse de travailler avec elle. C'est quand même génial à 42 ans de pouvoir voir sa mère tous les jours. Dans un cadre aussi génial que celui d'un théâtre des Bouffes parisiens, pour passer un moment aussi génial que celui qu'on passe ensemble.
Vous vous retrouvez à quelle heure dans les loges ?
Moi, j'arrive plus tôt, j'ai besoin de plus de temps. Ma mère arrive vers, quand on joue à 20h, elle est là vers 18h45.
Qu'est-ce que vous vous dites en vous voyant ?
Bonjour.
Ça va ma chérie, t'as passé une bonne journée.
Voilà. Ça va ma chérie, ouais, ça va. Et toi, t'as bien dormi ? Parce que ma mère dort pas très bien. Je dis alors, comment t'as dormi ? Oh, tu sais, comme d'hab. Voilà, je me suis réveillée à 4h, je suis allée pisser, mais tout va bien. Enfin voilà quoi, les
on l'imagine.
Normal,
on l'imagine, Josiane Balasko.
Quand on vous suit sur les réseaux,
Mathilde.
Moi je vous suis toutes les deux sur Instagram. Quand je scrolle, j'ai l'éloge de toi, l'éloge de ta mère. On est en immersion. Et puis vous photographiez pas les mêmes choses. Et puis des fois, t'arrives dans les stories de ta mère. On vous suit un peu facilement, comme un peu de la télé-réalité théâtre. J'adore.
Vous vous racontez beaucoup sur les réseaux, Marie-Lou ?
Non, pas tant que ça, en fait. Mais j'aime... Moi, c'est un outil que j'aime beaucoup pour pouvoir parler directement aux gens, sans intermédiaire, et être sûr que d'une certaine manière, c'est exactement ce que j'ai envie de dire, qui ne passe par aucun prisme, aucune autre voix, aucun autre média, finalement. C'est moi directement. Donc, je montre pas ma vie privée. Donc
on voit
peu.
Pas votre petit garçon.
Non, on voit pas mon enfant. On voit mon mec de temps en temps parce qu'il est sculpteur et qu'on partage pas mal de trucs. Finalement, c'est du faux privé. Mmh. Mais c'est des choses que moi, en tant que spectatrice, j'aime voir. C'est comme, par exemple, j'adore, avant l'époque des DVD, j'adorais les making-of, j'adorais les scènes coupées, les choses comme ça. Et quand je filme sur un tournage, par exemple, c'est vraiment ce que j'aimerais voir quand je vois un film de Tom Hanks, par exemple, qui est mon idole absolue. Bah, voilà, c'est ça que j'aimerais voir, moi. Voilà, c'est un point de vue de spectatrice, en fait.
On aime tous les coulisses.
J'adore les coulisses.
Vous aussi, Mathilde.
C'est important, ouais. Et puis, c'est aussi un moyen, je suis d'accord profondément avec toi, sur l'avantage des réseaux, qui, pour moi, sont un outil finalement moralement neutre. Hein. C'est comme un marteau, avec on construit ou on détruit. Et on peut construire vraiment une communauté en direct avec des gens qui... où il n'y a pas de filtre, en fait. Et souvent, on nous vend cette espèce d'image que quand on est un ou une artiste sur les réseaux, il faut se présenter d'une telle manière, montrer une certaine image. Et je pense qu'à l'ère de l'artificiel, les gens sont vachement aussi en demande d'un peu d'authenticité.
Alors, qu'est-ce que vous montrez de vous, Mathilde ? Par exemple, en studio, vous avez fait ce qu'on appelle la balance,
ouais.
Parce que vous nous faites l'amitié de chanter tout à l'heure en direct. Et vous vous êtes filmé à un moment.
Des petits bouts de vie comme ça. Là, je sais que je prépare une petite vidéo. Genre, aujourd'hui, je vous emmène à Paris, à France Inter. Parce qu'ici, ça permet en fait de créer du lien avec une communauté et puis aussi de montrer aussi ce que c'est la vraie vie des artistes. On est quand même des gens, des fois, très mystérieux. C'est très mystérieux, notre métier.
Vous me regardez avec des grands yeux.
Ouais, c'est... Et puis,
c'est les gens qui trouvent qu'on est mystérieux,
ouais.
Parce qu'en vrai, on l'est pas,
on
du,
est pas
tout.
Du tout mystérieux. Imagine un peu d'être
Quel est votre mystère?
Bah, très peu, il y en a pas. C'est pour ça que c'est chouette d'être actrice aussi de ce qu'on montre.
Mmh.
Parce que c'est un lien direct. Et puis, j'ai beaucoup de chance, je sais pas, toi, ta communauté, je sais que tu reçois énormément de messages d'insultes, mais qui sont pas des gens qui te suivent.
Mais des fois,
oui, moi aussi, ça m'arrive.
Mais pourquoi tu me suis sur Internet si c'est pour pas m'aimer, vraiment? Je pense qu'il y a des loisirs plus sympas, je sais pas, les Scooby-Doo, les perles, quelque chose. C'est autre chose, mais moi, j'ai quand même massivement une communauté...
Aimante.
Aimante, vraiment aimante. Et ça crée aussi un lien... par exemple, quand je vais en concert, des fois, les gens me disent « Je suis telle personne sur tel réseau. » Et des fois, c'est des gens qui me suivent depuis tellement longtemps, je vois très bien qui c'est.
Et les gens qui vous mettent des vacheries, qu'est-ce qu'ils écrivent ?
Eh bien, ils écrivent des vacheries tout à fait convenues, c'est-à-dire je ne suis jamais surprise par la vacherie, c'est que je suis trop grande gueule, par exemple, parce que j'ose dire que les femmes sont des personnes et pas des paillassons, qu'ils sont très très déterminés à me prévenir que je suis grosse.
Oui.
Ça, vraiment, à chaque fois, je tombe des nues.
C'est
à chaque fois une révélation pour moi qui ne possède ni miroir, ni le sens du toucher. Donc, vraiment, c'est souvent des choses très convenues qui, en fait, en disent beaucoup plus long sur la personne qui les écrit. Que
et Marie-Lou Berry, qu'est-ce qu'on vous écrit de méchant quand on vous
moi, ça dépend en fonction de mes actus. Alors oui, il y a le poids, mais c'est-à-dire que ça va dans les deux sens. Par exemple, quand je suis plus grosse, on va me dire que je suis grosse, que j'ai abusé, que j'ai pas fait attention, que tout ce que vous voulez. Puis quand je maigris, alors il y a deux teams, parce que moi je me justifie jamais sur les réseaux, c'est-à-dire que je ne vais jamais faire d'avant, d'après, je vais jamais dire que je fais un régime, je vais jamais expliquer qu'est-ce que je fais, j'estime que ça me regarde moi, et que ma fluctuation de poids ne regarde personne d'autre, et qu'en plus de ça, c'est des choses qui sont extrêmement privées, personnelles, et différentes à chacun, quoi, tout à chacun.
Donc vous mettez des limites au privé.
Oui, et puis surtout, je trouve que c'est dans l'intérêt de tous, en fait, cette limite-là. Donc, généralement, quand je fluctue, que je change de poids, on va me dire, soit il y a deux teams, soit oui, elle a cédé aux sirènes de la maigreur et de tout ça, ou alors il y a, c'est incroyable, donne-moi ton secret. Quel est ton secret ? Là, en ce moment, je reçois des tonnes de messages pour que je donne enfin mon secret.
Vous ne répondez pas ?
Non, je réponds pas, parce qu'en fait, soit je passe à peu près 8 ans de ma vie à expliquer aux gens que, un, il n'y a pas de secret, et que, deux, si on avait une recette magique, tout le monde serait sain, en bonne santé, avec un corps qui fonctionne normalement, dans une norme normée, où on serait tous exactement les mêmes, ce qui n'a aucun intérêt. Moi, j'ai toujours été très fière de mon corps. Je ne l'ai jamais aimé complètement, quelle que soit sa forme. Par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il ne m'a jamais empêchée de rien. Voilà. Et je pense que je préfère transmettre ce message-là, dire que quelle que soit ma taille ou mon poids ou ma taille de pantalon, je mets un maillot de bain. Et d'ailleurs, j'ai des photos sur mon Insta en maillot de bain, que je fasse un 34 ou un 52. Et je suis fière de ces deux facettes-là de moi.
Et pourquoi Marie-Lou Berry a besoin de faire un 34 de temps en temps ?
Mais j'en ai pas besoin, en fait. C'est un fait.
Même pas pour des rôles ? T'es pas ce genre un peu acteur studio ?
Ça dépend.
Pour un rôle, tu fluctues justement pour les besoins du rôle ?
J'ai rarement maigri pour un rôle. J'ai perdu du poids à un moment donné dans ma vie. Du coup, j'ai eu des rôles qui ont changé aussi. Après, j'ai fait un rôle, par exemple, Les Reines du Ring, où j'ai fait du catch. Donc là, mais j'étais mince, j'étais pas... C'est juste que je me suis entraînée à outrance.
Musclée de fou. Hein.
Donc je me suis musclée
catch,
de ouf.
Forcément.
Voilà, c'est ça, ça aide un peu. Et après, j'ai fait Cendrillon. Là, c'est un des seuls films, finalement, où je pense que j'ai vraiment perdu du poids pour un rôle. Parce que Cendrillon, c'était une fille qui voulait disparaître un peu. Et elle était in love d'un mec, un connard, évidemment, qui n'aimait que les filles avec des gros nichons. Donc moi, je me suis dit, je veux perdre mes nichons.
Ouais. Donc, c'est le dernier truc qui parle. pas. Hein.
Ouais, et c'est le dernier truc qui est parti. Et vraiment, je suis devenue un espèce de squelette sans nichon. Pour le coup, il y avait quelque chose de grisant, mais j'ai vu une différence de ouf sur le regard des autres.
Ah là là,
c'est-à-dire que les femmes sont des crevettes, quoi. C'est-à-dire que la tête importe peu. c'est vrai, aux yeux des hommes, souvent, c'est ça, quoi. Ça m'a hallucinée. Alors, c'était grisant de pouvoir aller au défilé Gautier et de porter ses tenues, effectivement. Mais en même temps, j'ai aussi aimé la meuf que j'ai été après mon accouchement ou pendant mon accouchement, par exemple. J'ai eu des nausées pendant 9 mois. Le seul moment où j'avais pas de nausées, c'est quand je mangeais. Donc, autant vous dire que j'ai beaucoup mangé. Et puis, j'aime manger aussi. Et il y a des périodes de ma vie où je mange autrement. Ou... Enfin, moi, ça fait à peu près 15 ans que je n'ai plus de balance et que je me pèse plus, quel que soit mon poids. J'ai décidé de me foutre la paix, quelle que soit mon envie du moment, en fait, sur mon corps.
On va écouter du rock, parce que je sais que vous aimez le rock.
Ah ouais ?
Ouais, je crois.
Ouais, ça dépend quel type de
rock.
Par
exemple, les Britanniques d'Arctic Monkeys.
Alors, je ne sais pas qui c'est,
ah,
mais...
Vous allez écouter, puis vous allez me dire si vous aimez Marie-Lou Berry. Ils chantent « Opening Night ». Massaging your forearm, holding your gaze, stealing your thunder, washing your brain, trying not to wake up sleeping dogs just because you're a lonely little Hall of Famer.
Vincent Jos sur France Inter.
Ah, c'était toi alors peut-être.
C'était toi. C'était vous qui chantiez
sur France Inter. Ah, moi, je me fermais
ah oui, parce que Mathilde a
mon
très
rêve.
Envie de faire des voix
rêve.
Sur France Inter.
Mon rêve. Vincent Jos sur France Inter.
Ah bah, c'est bien. J'achète. Enfin, je peux pas faire grand chose malheureusement pour vous. Le cinéma est dans votre vie depuis longtemps, pas simplement parce que vous êtes la fille de Josiane Balasko, mais aussi parce que d'abord elle vous a employé très tôt. Vous avez tourné dans un de ses films quand vous aviez 8 ans, Marie-Lou Berry.
Oh oui, mais ça c'est ce qu'on appelle une panouille dans le métier, une figure quoi. C'est-à-dire que souvent dans les films de réalisateurs ou de réalisatrices, on retrouve leur famille, leurs amis, leurs chiens, leurs voisins, ou enfin voilà des morceaux de leur vie et dans les films de ma mère aussi. C'est pour ça qu'aussi j'aime beaucoup ces films, parce qu'ils sont au-delà de ce qu'ils sont pour le public, ils sont aussi pour moi une espèce de photo d'un moment et d'une époque, d'une période.
Et vous dites souvent que vous aimez les rôles qu'elle a eus et que vous aimez quand elle se réunit avec le Splendide, les voir se marrer entre eux.
Ah ouais.
Vous êtes un peu spectatrice aussi de votre mère, parfois avec bonheur.
Je suis complètement spectatrice de... Moi, le Splendide, je ne l'ai pas connu. Moi, quand je suis née, ils étaient déjà chacun dans leur carrière. Ils ne tournaient quasiment plus ensemble, donc je n'ai pas du tout... qu'on peut penser cette image de tonton l'ermite et tout ça. C'est des gens que j'ai très peu connus. J'ai connu plus tard, plus grande aujourd'hui, mais que je connais. J'ai tourné avec Gérard Jugnot, j'ai rencontré plusieurs fois Michel Blanc, mais c'est des gens que j'ai très peu connus. Donc, quand je les vois ensemble, je suis un spectateur qui regarde les bronzés, quoi. Et ils sont à chier. Enfin, ils deviennent des gamins cons de 7 ans qui se
avec font plein d'imagination
en permanence, et c'est à pleurer de rire. Et même que ça soit aux enterrements ou à une fête, ils sont à pleurer de rire à l'enterrement de Michel Blanc. Mais même là, ils n'arrêtaient pas. C'était... Moi, j'adore les regarder. Ils sont tellement drôles.
Il paraît que depuis la mort de Michel Blanc, ils ont créé un groupe WhatsApp qui s'appelle le Splendide-1. C'est beau.
Ouais.
Et c'est tout leur humour aussi, et leur tendresse.
Oui, 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 ils sont très différents, hein. Que ça soit politiquement, que ça soit par leur mode de vie, ils vivent loin les uns des autres.
Une Balasco est plus à gauche qu'un Clavier.
Oui, voilà, mais ça n'empêche pas une seule seconde de se retrouver et de rire et de s'aimer, en fait. C'est ça qui est assez fou. Et puis, ils ont quand même une chance incroyable, ils ont tous eu des carrières indépendamment les uns des autres, ils se sont tous épanouis,
comédiens,
en fait.
Comédiens et cinéastes, pour la plupart, oui.
Et ça s'en ressent, je trouve, dans leur personnalité aujourd'hui. Donc non, quand ils se retrouvent assez rarement, trop peu rarement, moi c'est ce que je leur dis à chaque fois qu'on se voit à un enterrement, je leur dis, vous êtes cons, voyez-vous plus souvent.
Vous n'avez pas envie d'écrire pour eux ?
Si, j'aimerais bien, mais là j'ai trop de trucs à faire, mais j'aimerais bien écrire pour eux.
Vous avez eu une enfance non pas difficile, mais une scolarité difficile, Marie-Lou Berry. Qu'est-ce qui était compliqué à l'école ? Vous en parlez souvent jusqu'au bac, comme quelque chose de vraiment douloureux.
Bac que je n'ai pas passé, hein. Je me suis arrêtée bien avant le bac.
Ah oui, vous êtes partie en quelle classe ?
En seconde.
Pour aller où ?
Pour aller au conservatoire d'arrondissement du 7e, jouer, apprendre à jouer.
Et là, vous vous sentez mieux, à ce moment-là ?
Ah oui, bah là, j'ai découvert le plaisir d'apprendre quelque chose.
Et pourquoi ça ne fonctionnait pas à l'école ?
J'ai pas été faite pour ça. Puis je trouve toujours le cas aujourd'hui. L'école, c'est... Je comprends pas ces règles, je comprends pas cette organisation.
Vous dites ça à votre petit garçon de 7 ans ?
Non, mais mon petit garçon de 7 ans va dans une école Montessori, donc j'ai réglé le problème autrement. Et puis, bien heureusement, j'ai les moyens de pouvoir le mettre. Alors moi, j'adorais qu'il puisse aller dans le public. Moi-même, oui. Je suis allée dans le public, mais... Ça m'angoisse trop, la disparité, le manque de moyens, la disparité des qualités des professeurs, les méthodes d'enseignement, le programme. Enfin, tout ça, moi, c'est pas possible.
Et pourtant, le conservatoire même d'arrondissement, et Mathilde qui chante le sait, elle a payé aussi, elle est passée aussi par le conservatoire, c'est quelque chose d'assez dur, d'assez rude, avec des règles.
Bien sûr, mais moi, ce qui me gêne, c'est pas les règles. Ce qui me gêne, c'est l'absurdité des règles. Quand elles ont du sens, ces règles, elles sont justement très constructives, et du besoin naît l'invention. Et la règle structure, au contraire. Et le conservatoire est une institution publique, donc c'est bien pour montrer à quel point il peut y avoir du bon dans ce que l'État peut nous donner.
Mathilde.
Je pense aussi que le conservatoire, quand on est au conservatoire, et tu me diras si c'est pareil pour l'art dramatique, mais il y a quelque chose de beaucoup plus immédiat. C'est-à-dire qu'en une heure de cours de solfège, il y a des règles très strictes, parce que c'est le solfège, mais à la fin, il y a une mise en pratique qui est quasiment immédiate. Alors que souvent, dans les cours au collège et au lycée, c'est il faut apprendre ça maintenant pour que ça te serve un jour dans la vie. On fait de la géométrie dans l'espace maintenant, parce que peut-être un jour tu iras chez Ikea et tu auras 20 mètres carrés et il va falloir que tu maximises l'espace. Quand on a 12 ans et qu'on est là s'emmerder en maths, je peux comprendre que si on n'a pas quelque chose de pratico-pratique tout de suite, parce que tout est très abstrait en fait à l'école. Et puis je pense que tu disais, moi j'étais pas faite pour l'école, je pense que l'école, pour l'instant, elle est toujours pas faite pour les enfants.
Pourtant, vous avez une scolarité CHAM.
Ouais, moi j'ai une scolarité CHAM.
C'est-à-dire que vous avez pu suivre des cours
de musique
plus que les autres.
Ça s'appelait pas encore CHAM.
Donc ça semble génial.
École le matin, conservatoire l'après-midi. Moi, ça me paraissait tout à fait normal. C'est français, solfège, violoncelle, maths.
Le rêve.
Moi, j'avais assez hâte d'être au conservatoire le matin. C'était l'école normale. Et donc, c'est quand est-ce qu'on va faire des trucs vraiment avec des instruments.
Donc ça, c'était joyeux.
Et c'était joyeux. Alors, c'était aussi très strict, parce que c'était une autre époque, parce que j'ai quand même la quarantaine, et c'était une époque d'un conservatoire particulièrement CHAM, où on était dans former vraiment des musiciens d'orchestre, donc c'était la carrière toute tracée, même si t'as 8-9 ans, on fait ça sérieusement, c'était moins pour justement, comme on peut voir aujourd'hui, des pratiques musicales qui peuvent être aussi juste pour le développement personnel de l'enfant et de l'humain. Mais donc des fois c'était très rigide, très rude, il y a aussi des... faut passer des auditions et des concours et des trucs comme ça, mais c'était quand même dans... on fait quand même de la musique, on fait de l'art, donc il y a quand même quelque chose de joyeux, il y a les trucs de fin d'année, et puis il y a quelque chose de très lié à ce qui, je pense, fait notre humanité, et beaucoup de discipline, je pense, de l'école le matin, ne me permettait pas justement d'être dans cette espèce de joie d'exister, à faire des trucs difficiles, hein, le solfège, faut se le fader, hein. Mais à la fin, je pouvais comprendre, par exemple, des chansons de Queen, parce que deux croches noires, deux croches noires. Ah, incroyable ! J'avais l'impression de déchiffrer des hiéroglyphes, moi. C'était super chouette.
En tout cas, ça vous a servi pour la chanteuse que vous êtes aujourd'hui.
Bien sûr. Et puis surtout, moi, je dois remercier quand même mes parents qui ont pris mes envies très au sérieux quand je disais « je vais être chanteuse, je vais être chanteuse, je vais être chanteuse, je vais être chanteuse ». Ils m'ont pas dit « c'est pas un métier ». Ils m'ont dit « si tu veux vraiment être chanteuse, on va du coup te mettre en cham ». Je dois aussi beaucoup à l'assiduité de mes parents qui quand même ont insisté et qui fait qu'aujourd'hui, je suis vraiment musicienne. C'est-à-dire qu'on parlait tout à l'heure de comment je m'identifie. Moi, je suis plutôt artiste, musicienne et femme engagée. Mais vraiment, le côté musicienne, je dirais pas que chanteuse, ça peut pas se valoir comme telle, mais ce n'est qu'une seule partie de comment je m'éprouve.
Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Moi, je suis femme engagée.
Ouais, moi, je suis femme engagée, ouais.
Moi, je trouve ça formidable d'avoir une envie comme ça aussi jeune.
Dans le bain, tous les soirs du bain. Je chanterai mieux que la calasse. Ok, fort bien. Bah, on va s'y mettre parce qu'il y a du travail.
Parce que c'est génial d'avoir des parents qui t'entendent. Alors, mais moi, c'est génial d'avoir ces envies-là.
Donc ça aide. Mais ils sont pas du tout.
Qu'est-ce qu'ils font comme
ils sont pas du tout musiciens. Mon père est réalisateur de films d'animation expérimentaux et ma mère est illustratrice. Eux, ils ont quand même baigné dans un monde où ils m'ont toujours montré que la réalité du milieu artistique, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de taf pour très peu de lauriers, pour une précarité quand même toujours un peu au bout du tunnel, peut-être, mais aussi beaucoup de travail. Et
c'est la même chose pour Marie-Lou Berry, qui a vu ses parents travailler beaucoup. Josiane Balasco, elle a toujours travaillé. Alors, elle a du succès depuis toujours, on a envie de dire, mais elle a aussi énormément travaillé. C'est une bosseuse.
Ah oui, ma mère, c'est... elle se définit comme une flemmarde, mais je suis pas d'accord. En même temps, moi aussi, je me définis comme une flemmarde. Mais c'est... ma mère, c'est vraiment pas vrai, parce que ma mère déteste les vacances. Moi, par exemple, j'adore les vacances. J'adore aller au spa, j'adore faire des saunas. Ma mère, j'ai essayé de l'emmener faire des massages au bout de 5 minutes dans le jacuzzi. Elle dit bon, on s'ennuie, j'en ai marre. Voilà, elle, c'est pas du tout son délire. Donc non, ma mère est une bosseuse et puis elle a eu à cœur, comme mon père ou ma mère, de me montrer que être actrice ou réalisatrice, c'était pas juste faire des photos, se faire maquiller et sourire à la caméra.
D'ailleurs, elle a eu peur pour vous. On va l'écouter, votre mère, Josiane Balasco, en 2010.
Donc moi, je suis ravie que ma fille ait un don, parce que c'est le problème des enfants qui font le même métier que leurs parents, dans quel que soit le métier qu'on fait, c'est qu'on va être comparé, surtout si les parents ont eu quelques succès. Donc c'est pas évident d'être le fils ou la fille d'eux et de faire le même métier. Il se trouve qu'elle est meilleure que moi, que j'étais à son âge. Oui, je le pense. Les mots m'évoluent peut-être plus, et puis elle a commencé plus tôt, que maintenant l'image de la femme et de la jeune fille a énormément évolué. Dans les années 70, une jeune fille était admissible que si elle était blonde, enfin je schématise à l'extrême, que si elle était blonde, mince, avec les yeux bleus. Alors ça, on trouvait un rôle de jeune première à la télé, sinon c'était très dur. Alors, et Marie-Lou est rentrée dans un univers qui est quand même un peu plus ouvert, où on n'est pas obligé d'avoir un physique standard.
Et l'autre imbécile, avec sa pitié à la con.
Qui, Karine ?
Oui, Karine.
Enfin bon, elle n'a pas dit grand-chose, elle a dit une demi-phrase, elle a essayé.
Tu dis que j'en ai rien à foutre de sa pitié, elle peut pas comprendre, elle sait pas ce que je vis. Tout le monde me le fout dans la gueule que je suis grosse. On me laisse pas rentrer dans les boîtes de nuit, moi. Tu sais ça, on me laisse pas rentrer, figure-toi.
Moi non plus.
Bon bah tu devrais me comprendre au lieu de m'enfoncer.
Je t'enfonce pas, je te dis qu'elle a essayé d'être gentille, t'as été injuste avec elle.
Ouais, bien sûr, évidemment. T'es d'accord avec eux maintenant, comme par hasard.
Qu'est-ce que ça veut dire, ça ?
Ah, bah t'as raison, hein. T'emmerdes pas avec moi. Maintenant que t'as eu ce que tu voulais avec mon père, t'es plus obligé de faire des manières.
Quoi ?
Tu sais très bien ce que je veux dire.
Vous vous souvenez de Lolita, Marie-Lou Berry, il y a 22 ans.
Oh là là.
Déjà, le film de Jaoui Bakri, vous étiez Lolita, fille de 20 ans, un peu immature.
Tu aurais pu faire ma voix, toi.
Complexée,
au ciné.
Qui endure ses kilos superflus et son père, écrivain et éditeur de renom, qui prend à peine le temps d'écouter sa fille. Alors, elle n'est pas très heureuse, Lolita. C'était un peu votre arrivée dans le métier.
C'était complètement mon arrivée dans le métier, c'était mon premier rôle. Je sortais du conservatoire... De 2 ans de conservatoire, mon prof de théâtre me dit, je préparais les SAD, qui est une maison des conservatoires, un concours sur lequel je misais énormément parce que tous mes potes passaient ce concours. Et mon prof me dit, il y a Brigitte Moidon, qui est directrice de casting, qui cherche des jeunes filles qui voudraient te voir en essai. Et je dis, non, mais moi, ça m'intéresse pas les castings, je veux faire du théâtre avec mes potes. Je savais qu'on m'attendait au tournant. Et il m'a dit, mais tu sais quoi, fais-le comme un exercice, en fait. C'est bien que t'en fasses un, fais-le comme un exercice. Et j'y suis allée en n'ayant absolument rien à faire. Et c'est d'ailleurs ce qui a plu à Agnès Jaoui, c'est que je n'en ai rien à faire. Et évidemment, bon, j'ai fait un casting qui a duré 2 mois et demi, parce qu'on m'a rappelé, on m'a rappelé. Et le jour où j'ai passé des essais avec Jean-Pierre Bacri, là, je suis sortie de ces essais. Et c'est marrant parce que c'est juste à côté du théâtre où je joue aujourd'hui. Donc, tous les jours, à chaque fois que j'arrive, j'y pense. Je suis sortie de ces essais et je me dis, oh la vache, qu'est-ce que c'est simple. Parce que de jouer avec Jean-Pierre Bacri.
Ouais.
Parce que quand on est en cours de théâtre, on est dans un délire un peu ouais, attends, non, là, je sens que c'est pas top. Il y a un truc. Ouais, mais tu vois, à ce moment-là, là, je pense que... Et on est dans une ultra-cérébralisation de tout. On réfléchit tout. Et tout d'un coup, je fais ces essais avec Jean-Pierre et tout est simple. Parce que c'est ça, finalement, jouer la comédie. C'est beaucoup réfléchir pour que quand on le fait, quand on y arrive, c'est simple. Et c'est le plus dur, parce que quand on regarde un mec marcher sur un fil, ça a l'air facile.
Ouais, mais c'est ça, le métier.
Et aussi. C'est ça, le métier.
C'est-à-dire que c'est pareil en chant.
Oui.
Tu vois, c'est-à-dire que pour être sûr que tout le monde ait l'impression que ça sort comme ça...
Comme ça.
Bah, en fait, nous, on envoie des fusées.
Oui.
On reboulonne tout.
Derrière.
Et... C'est pas au moment où tu sautes à l'élastique que tu te poses la question, oui, de savoir si tout est bien accroché. Il faut que ça ait l'air, justement, gracieux. Mais je sais pas si tu sais à quel point ce rôle, il a eu de l'impact sur les nanas comme moi qui t'ont vu dans ce rôle-là. Moi, je t'ai découvert avec ce film-là. Et je me souviens de ce que j'ai éprouvé, assise dans mon petit cinéma d'Argenton sur Creuse à l'Eden Palace, avec ma mère à côté qui m'avait emmené voir ce film, et où... des portes se sont ouvertes dans ma tête, une libération, ça m'émeut rien que d'en parler, parce que je pense que je te l'ai jamais dit, tu vois, mais où je me suis dit, ah ok, en fait, si Marie-Lou, elle a le droit d'exister, moi aussi j'ai le droit d'exister, en fait. Et il y avait un petit MeToo, genre un petit MeToo avant MeToo, le MeToo de l'existence de, justement... Parce que moi, là, j'ai été toujours très libérée sur scène en tant que chanteuse, parce que mon corps, c'est mon instrument, et donc du coup, à chaque fois qu'il faut que je chante, mon corps, il est libéré, je prends toute la place, il n'y a pas de problème, ma voix, elle porte, et vraiment, je le considère comme un instrument à part entière, unique, en plus, il n'en existe qu'un seul, donc... Mais je suis beaucoup plus libérée et beaucoup plus émancipée à la scène qu'à la vie, encore. Parce qu'à la vie, il m'est arrivé des trucs beaucoup plus durs qu'à la scène. Et en fait, il y avait quelque chose de te voir comme ça à l'écran, même juste exister, c'est-à-dire même sans aller jusqu'à la revendication, juste la simple existence. Et après, évidemment, ça s'est renouvelé dans Nos Jours Heureux et dans des films comme ça où je sais, genre...
Dans Vilaine aussi.
Ouais, et puis le fait de te voir exister, Et de te voir exister, justement, où en fait, même si le poids, ça peut être le sujet du film, de la pièce, d'un moment où que tu incarnes, il y a quelque chose que tu émanes qui, je pense, transcende ça aussi, c'est parce que...
Mais c'est parce que j'ai jamais joué ça, moi.
Ouais, ouais, voilà, ça se voit. C'est-à-dire que c'est pas que c'est pas un problème ou que ça peut pas être un problème, parce que souvent, quand on a un surpoids ou quand on nous voit par rapport à notre poids, c'est souvent le problème des autres. Hein. C'est les autres qui ont beaucoup un problème avec notre poids. Donc là, genre, j'ai pas de problème avec mon poids, moi. Et donc ça se sentait aussi. Il y avait quelque chose qui émanait de toi. Moi, je suis ici, en fait, pour jouer ce rôle. Je suis pas ici pour être la grosse du film. Et donc, du coup, ça m'a...
Vous avez eu des retours.
Ça m'a quand même émancipé.
Quel type,
quoi,
de retour, d'ailleurs, à l'époque?
Ça dépend. Moi, je me rappelle de ma première interview pour Comme une image avec elle. La nana me dit « Quel courage !» Et je la regarde et je lui dis « C'est-à-dire ? Comment ça ? Du courage de quoi ?» Et elle me dit « Bah non !» Et du coup, je la vois qui se... Parce qu'en fait, si elle va au bout de sa pensée, ça n'est que la projection de sa peur à elle, qui se dit qu'elle, à ma place, elle n'oserait pas faire ce que je fais. Mais ce qui m'a, moi, choquée ce jour-là, quand j'avais 20 ans et que je faisais ma première interview, c'était de dire à 20 ans à cette nana, et je lui ai dit ça, je dis, mais ça veut dire quoi, par exemple, que vous, si vous aviez été à ma place, vous seriez resté avec un sac sur la tête à l'intérieur de chez vous parce que vous auriez eu peur de vous montrer? Et j'ai vu la nana se décomposer, parce qu'elle comprenait son raisonnement, et elle s'est excusée. Et moi, les premières réflexions que j'ai eues, c'est ça. Puis après, effectivement, il y a eu des gens comme Mathilde qui me disaient « Merci d'avoir... » Moi, j'ai rien ouvert. En vrai, c'est Agnès Jaoui qui a écrit ce personnage. C'est les rôles qu'on m'a proposés derrière. Le fait d'être ce que j'étais, moi, dans Nos Jours Heureux, par exemple, il est à aucun moment question, ni de corps, ni de poids, ni de quoi que ce soit. Dans Vilaine, c'est autre
à part
chose.
La scène où...
Ah ouais, avec Guillaume Cyr, et la grosse, je suis d'accord
avec la grosse. Tout le monde autour de la table, genre... C'est Nadine, son prénom. Cette scène, mais rien que comment elle est articulée, j'étais là genre, yes. C'est tellement intelligent. C'est tellement intelligemment amené aussi.
Et oui, puis en plus, à une époque où le mot grosse était encore aujourd'hui, c'est encore rentré un peu.
C'est rentré un petit peu.
Mais à l'époque, le mot grosse, c'était une insulte suprême.
Ouais, c'était pas,
alors que
pas
chez les Québécois,
le dise,
c'est complètement normal.
Ouais, il y a un truc de culture.
Moi, par exemple,
différent.
J'oserais pas vous dire grosse, je vous dis ronde, Mathilde.
Ouais, mais moi, par contre, je sais pas, tu veux quoi?
Toi,
tu veux une petite ou une grosse
ou
pizza?
Oui, bah ouais.
C'est, tu veux un gros, tu veux un petit ou un gros chèque? Tu veux une petite baraque ou une grosse baraque? À partir du moment où c'est qualificatif, alors après, évidemment, ça se contextualise dans l'intention.
Mais je parle d'un homme à une femme.
Bah, je sais pas, moi, j'ai pas de problème à dire que je suis grosse et je pense qu'il faut désacraliser le mot gros et qu'il redevienne quelque chose d'une banalité sans nom.
Alors, Mathilde, tout ça, tout ce que vous dites là, vous le dites en chanson. Quand vous avez envie d'écrire une chanson, ça vient souvent d'une expérience comme ça, d'une réaction de quelqu'un à votre corps, d'une dénonciation. Vous disiez, je suis une femme engagée, ça fait presque partie de vos casquettes
en plus de
musicienne.
C'est une décision d'être femme engagée. Hein,
ouais, et vous avez envie de chanter dans le grand atelier de Marie-Lou Berry. Qu'est-ce que vous allez interpréter?
Eh bien, je vais interpréter une chanson favorite de Marie-Lou Berry, sa chanson préférée, qui s'appelle Guerre de lumière. Et en ce moment, je réexplore, parce que l'album s'appelle La nuit, le jour, et cette chanson, c'est une chanson un peu du jour, c'est une chanson de la lutte. Et dans cet album, du coup, qui s'appelle La nuit, le jour, il y a des explorations un peu plus nocturnes, parce que la lutte, c'est bien, et puis on lutte tous les jours, puis au bout d'un moment, on est là, genre, je suis fatiguée quand même un peu. Et là, en ce moment, je sors très régulièrement des versions, ce que j'appelle Mélancolia, de certaines de mes chansons de lutte, pour honorer aussi les jours où c'est dur. Parce que moi, j'ai tendance à penser que la lutte doit être joyeuse et qu'on peut mettre de la joie dans la lutte, parce que reconquérir sa dignité de femme et ses droits, etc., on a le droit d'être joyeux par rapport à ça, ça fait du bien, ça fait plaisir.
Vous allez nous le prouver?
Évidemment.
Eh bien, on vous suit.
C'est parti.
Le jour on casse du troll dans la vraie vie, sur les réseaux, on est prêt à risquer notre peau. Violeur, prends peur, on sait que c'est toi l'agresseur. Qu'est-ce que tu crois? Nous on te voit, nous on te lâchera pas. Parce que nous tu sais, nous on n'est pas des filles sages, pas plus que des filles volages. Nous on est juste des meufs sûres, sûres d'avoir des droits, au moins juste les mêmes que toi. Tant qu'on nous les donnera pas, nous et on les arrachera à monsieur patriarcat, celui des hommes qui dominent, et puis de la bite qui culmine en haut de la pyramide, de ton sexisme assumé, de mecs aux privilégiés qui croient pouvoir nous dompter. Sauf que tu sais, nous on est des guerrières de lumière. Du mal en rut, sur le pavé, dans les métros, pas de répit pour les salauds. Le jour, on marche, dégage et patriarche. Soyez pas surpris, c'est la fin du crédit. Le temps des femmes, c'est aujourd'hui. Parce que nous, mais oui, non, on est féministe, oui, féministe radical. Après tout, c'est bien normal, on fait juste que se défendre du monstre ultra-libéral. Comment pas devenir misandre dans ce monde liberticide, dans ce monde féminicide qui flingue notre dignité à chaque occasion trouvée, qui croit pouvoir nous soumettre, qui croit pouvoir nous la mettre, qui croit pouvoir nous briser. Sauf que tu sais, nous on est des guerriers. Thank you.
C'était Mathilde qui chantait pour nous tous, et d'abord pour sa première fan, Marie-Lou Berry. Venez nous rejoindre, Mathilde. Je rappelle que vous vous êtes connus sur les réseaux sociaux, Marie-Lou Berry et Mathilde, et que vous échangez régulièrement, comme le dit Mathilde, entre Châteauroux et Paris, et que la relation se fait comme ça. C'est la première fois que vous vous rencontrez.
Non, on s'est rencontrés, j'ai invité Mathilde à Metz Général, venir voir la pièce.
Ah, vous avez vu la pièce. Ben, on va en parler, si vous voulez
bien.
De mon
personnage qui s'appelle Mathilde.
En ouais, c'était une expérience pour moi, parce que tu ne m'avais pas dit. Non. Viens voir ma pièce, c'est genre, ok.
C'est le soir de Noël, Frédéric rend visite à sa fille, Mathilde, par surprise. Nous voilà au cœur d'une histoire familiale, mère-fille, mari-femme, mère-enfant, au cœur de la violence conjugale, celle qui se pratique dans l'intimité et qui se cache longtemps, trop longtemps. L'auteur de Ça, c'est l'amour, qui est joué donc au Bouffe Parisien, Jean-Robert Charrier. Et ces quatre comédiens sont justes dans chaque situation. Ça commence comme une comédie, une mère qui s'incruste à Noël chez sa fille et qui, elle, redoute que cette arrivée ne réveille son mari et son fils. C'est une fille qui a perdu sa joie. La mère est envahissante, elle s'inquiète en silence et, pour détendre l'atmosphère, avoue qu'elle ne supporte pas les jumeaux de son autre fille. Moment de complicité.
J'ai jamais réussi à comprendre lequel était lequel. Parce que tu crois que j'y arrive? Mais tu fais comment?
Ah bah au pif. À chaque fois. Et si le gamin reste inerte, je tente l'autre prénom. Joseph. Il y en a qui bouge. Eudes. Ah bah ça y est, c'est toi, c'est le copain.
Il paraît qu'on a un qui a un grain de beauté différent sur le jeu.
Bon, vas-y, faut les déshabiller à chaque fois. Non, le truc, c'est compliqué.
J'ai jamais vu des gosses qui se la racontent autant à cet âge, c'est fou ça.
C'est l'enfer, qu'est-ce que tu veux? Il est si con, ça détend. Oh, on rigole bien quand.
Tais-toi, tais-toi.
Pardon?
T'as entendu du bruit?
Ah non, j'ai juste entendu ton rire que j'avais pas entendu depuis longtemps, ça m'a fait du bien. C'est Eugène,
c'est toi, putain, c'est Philippe.
Voilà, on vous entend écouter très attentivement avec un sourire un peu ému, attendri, Marie-Lou Berry, vous entendre mère et fille, dans cette pièce qui est à la fois, je le disais encore une fois, une comédie et un drame, et je trouve que l'équilibre est très juste entre les deux. Je trouve que Jean-Robert Charrier a su marier ce qui pourrait être impossible ou grossier.
Bah, la vie souvent est surprenante et l'humour est
lourd
partout, finalement, même dans les moments les plus dramatiques. Et puis surtout, moi, ce que j'aime profondément dans cette pièce, c'est le fait que ça commence comme un boulevard, c'est que ça emmène les gens par la main. C'est une pièce très immersive. C'est-à-dire qu'on prend les gens par la main, on pense... Alors souvent, Mathilde, je ne l'avais pas prévenue, parce que c'est vrai que je n'avais pas pensé à prévenir les gens que j'invitais, mais les gens, en général, viennent sans savoir ce qu'ils vont voir. Ils misent juste sur nos deux noms, donc comédie, Balasco, Berry, ça va être drôle. Et ils pensent venir voir une comédie sur mère-fille qui se chamaille. Et ça commence comme ça, avec une mère envahissante qui débarque à l'improviste. Et petit à petit, ça glisse. Et le fait d'accrocher le spectateur comme ça dès le début fait qu'on l'emmène, et le personnage que j'incarne, Mathilde, est un personnage qui provoque énormément d'empathie, avec lequel on est pendant toute la pièce. Et ce qui, moi, était important, et la manière qu'a eu Jean de décrire ce personnage, c'est d'en faire une femme forte. Parce que souvent, on pense que les femmes qui sont victimes de violences, d'emprises, de ces situations-là, sont des femmes faibles, des femmes craintives, chétives, effacées. Et c'est complètement faux. Je veux dire, nous, on a toutes, dans nos cercles d'amis ou soi-même, été amenées à avoir ce genre de comportement, que ce soit un cercle proche, éloigné ou soi-même. Et c'est souvent des gens qui ont du caractère.
Ben, regarde-moi. Moi, je suis tombée sur un mec violent. Ça m'a pris 2 ans, et en fait, c'était justement parce que j'étais pas une proie facile, et que c'était fun pour lui de me briser tel un cheval sauvage.
Et de réussir à voir jusqu'où il va pouvoir aller, et jusqu'où toi tu vas faire semblant.
Mais c'est l'incroyable intelligence de la pièce. C'est qu'à la fois, il y a cette prise au piège par le boulevard, et par on sait pas trop ce qu'on va voir. Et en fait, c'est ce que je disais justement dans cette petite vidéo que j'ai fait à propos de cette pièce pour inviter ma communauté à aller voir, c'est que moi, j'ai revu cette même prise au piège subtile jusqu'au moment où on se dit « Ah, en fait, je suis dans une cage. En fait, je suis pris au piège. » Et où c'est trop tard.
Il vous a fallu 2 ans, vous, Mathilde ?
Ouais, moi, il a fallu 2 ans pour partir.
Ça a été quoi, le déclic ?
En fait, ça a été des amis qui m'ont sauvée et qui se sont rendus compte de ce qui se passait, qui m'ont dit « Demain matin, on va chez les flics. » À la première heure, qu'on dormit chez moi, qui m'ont protégée. et qui m'ont emmenée en disant c'est pas normal ce qui t'arrive. Et je croyais que j'étais seule, mais à l'époque, j'avais 19 ans, bébou, je comprenais pas ce qui m'arrivait. Et quand j'ai vu cette pièce, c'était très particulier, parce que je pense que déjà quand on voit cette pièce qui justement est très immersive, ça peut être. C'est très particulier, cette manière de raconter est très intéressante et vraiment touchante. Mais quand en plus le personnage principal porte son propre prénom, raconte notre propre vie, c'est genre ouh, Marie-Lou, c'est très près, beaucoup trop près. Et en même temps, j'ai trouvé justement que, en tant que survivante de violences conjugales, souvent, nos récits de survivantes sont un peu accaparés pour faire de l'art, sans vraiment finalement raconter notre histoire. Ça devient un prétexte, nos récits deviennent un prétexte. Et ce que j'ai adoré dans cette pièce, c'est que le récit, c'est pas le prétexte, c'est le centre de toutes les préoccupations. Et moi, c'est en ça que ça m'a bouleversée, mais c'est aussi quand tu parles de prise au piège, elle est écrite, et le public, à un moment donné, se rend compte, comme nous, en tant que victimes, on se rend compte des fois tard de ce qui est en train de se passer, parce que c'est tellement des petites choses perverses que le moment où la cage se referme, il est déjà trop tard.
Tout ça est très bien écrit, je trouve, par Jean-Robert Charrier.
Mais je pense que c'est aussi parce que c'est son histoire.
Ben voilà, justement, il va nous le dire. Écoutez-le, Jean-Robert Charrier, parler de cette pièce, ça c'est l'amour.
J'avais un père alcoolique et violent et on a vécu des moments très difficiles. À l'adolescence, quand il y avait des scènes vraiment horribles à la maison et que j'étais dans le fond de mon lit et que je tremblais des pieds jusqu'à la tête, je tenais en me disant que j'en ferais quelque chose un jour, sans évidemment savoir quoi, parce que j'avais aucune idée de ce que j'allais faire de ma vie, mais je sentais au fond de moi qu'il se passerait quelque chose de positif avec ça. Et je crois que c'est comme ça que j'ai tenu bon dans ces années-là. Et j'ai l'impression d'avoir 14 ans, d'avoir entre 12, 13, 14 ans chaque soir quand je vois le spectacle, et j'ai l'impression d'être le petit garçon qui a vécu ça. Et de voir ce triomphe-là pour mon histoire, c'est très émouvant.
Ça doit aussi être important pour vous que Jean-Robert Charrier se raconte. Vous avez aussi son histoire à porter sur scène.
Bah, non seulement il y a son histoire, mais aussi celle de sa mère qui est venue nous voir plusieurs fois, qui travaille au théâtre de la Porte Saint-Martin, je crois, qui est aussi dirigé par Jean. Puis Jean nous a accompagnés, la pièce est mise en scène par Julianne Roth, mais Jean nous a accompagnés pendant toutes les répétitions, parce que c'est une vraie collaboration qu'il y a eu entre deux pour la mise en scène. Déjà parce qu'il avait aussi des idées très précises du déroulement de la pièce, et que justement, c'était important que Mathilde ne soit pas une femme faible, qu'il y ait cette notion de combat, parce que pour moi, il y a des scènes avec Riyad, de qui joue Philippe, mon mari, qui sont un combat, c'est pas juste une meuf qui fait comme ça, et qui a peur, et qui se met dans un petit coin comme une petite
D'autant
souris.
D'autant plus qu'il y a des moments où il est très amoureux, très doux, et
oui,
il ne sait plus sur quel pied danser.
C'est l'archétype, c'est la structure même de la relation pervers. D'emprise. Et du pervers, je ne suis pas très fan, moi, de ce mot, parce qu'un pervers, c'est un fourre-tout. Pour moi, c'est un homme violent, il n'y a pas d'autre mot, en fait. C'est effectivement pathologique aussi, mais...
Ou peut-être de l'homme alcoolique.
Je ne sais pas s'il est alcoolique, il boit, mais est-ce qu'il est alcoolique ? Je pense que ce n'est pas son alcoolisme qui déclenche sa violence. C'est peut-être ce qui l'amplifie, mais en l'occurrence, c'est un homme violent et qui met en place toute une armada de contrôle sur sa femme.
De manipulation.
De manipulation, ça va de garder son téléphone, de fermer la porte de la maison, de la couper de tous ses amis, tout en lui disant « Pourquoi elles sont parties, tes copines ? Tu crois quoi ? Bah parce que t'es casse-couille, en fait. Parce que tu penses qu'à ta gueule. C'est pour ça qu'elles sont plus là, tes amis. » De toutes ces choses-là, tout en étant à des moments « Je sais, moi, je mérite pas de cadeau, mon amour. Je suis désolée. Je t'aime. Tiens, des fleurs. Tiens, c'est notre chorégraphie de mariage. Oh là là, c'est fou, quand même. » Et c'est uniquement parce qu'il y a ces lunes de miel. Moi, ce que je trouve au-delà de la violence, c'est que, qu'on l'ait vécu ou pas, on peut toutes se retrouver dans certaines choses. On a toutes couché avec notre mec à un moment donné, alors qu'on n'avait pas très envie. On a toutes aimé un homme et on est resté avec ce mec parce qu'on a gardé l'image de l'homme de qui on est tombé amoureuse.
Ouais, qu'on a rencontré.
Sans pour autant que ce soit un homme violent, c'est pas la question. Mais quand Mathilde, elle dit à la fin de la pièce, ce mec, Philippe, quand je l'ai rencontré, c'était l'homme le plus doux, gentil et attentionné de ma vie. Et cette douceur est restée collée à la surface de ma peau pendant très longtemps. Je trouve qu'on peut toutes se projeter là-dedans. Mmh. Parce que qu'il y ait une question de violence, de maltraitance et d'emprise ou pas, on a toutes aimé l'image d'un homme qui nous a séduits à un moment donné. On peut toutes avoir ces failles-là, quelque part, sans pour autant vivre un enfer, comme Mathilde le voit. Donc, il y a même des hommes aussi qui voient cette pièce et se disent « Tiens, ça, c'est un comportement que j'ai eu à un moment donné, sans pour autant... »
Parce qu'il joue tellement bien, c'est terrible.
Ouais, il est formidable. À
la fin, j'étais genre, j'ai pas envie de le détester, mais vraiment, il fait tout pour qu'on l'aime pas.
On va redire son nom, Marie-Lou Berry.
Riyad Ghami.
Ouais, Riyad Ghami. Avec ce rôle ingrat, mais magnifique aussi.
Magnifique, il est formidable. Et ça lui coûte beaucoup plus que moi de jouer cette pièce, je pense.
Vous jouez avec votre mère, Marie-Lou Berry, Josiane Balasco. Vous avez demandé à Jean-Robert Charrier de trouver un texte. Il a fini par en écrire un, qui est cette pièce. Vous disiez tout à l'heure qu'avec Bacri, C'était une évidence quand on jouait avec lui et qu'il vous faisait être meilleur, peut-être qu'il vous améliorait encore, que vous progressiez sans vous en rendre compte. Est-ce qu'avec Balasco, je parle vraiment de l'actrice, on progresse aussi, on se sent bien? Comment vous réagissez quand vous êtes en face d'elle?
On se sent bien, et puis vous savez, pour un acteur ou une actrice, tout ce qu'il n'y a pas à jouer, tout ce qu'il n'y a pas à faire semblant, c'est du bonus. Donc le fait de jouer avec sa propre mère, c'est tout ça qu'on n'a pas à jouer. On n'a pas à se dire, tiens, si c'était ma mère, comment je réagirais? Quel lien? Qu'est-ce que ça causerait? Quel déséquilibre ça donnerait? Tout ce que j'ai créé avec Riyad, par exemple. Riyad, on ne se connaissait pas. On avait des scènes d'intimité, on se touche, on se frappe. Enfin, il me frappe, en l'occurrence. Il y a toutes ces choses à appréhender, qui prennent un peu de temps à créer. Alors qu'avec ma mère, tout ça, c'était déjà fait. Il n'y avait pas à jouer ça. Il n'y a pas à le jouer. Et ça, pour une actrice, bah, c'est du bonus, parce qu'on peut se concentrer sur le reste. On se sent en sécurité. Ouais, on est safe, quoi. On est sur une safe place.
On gagne du temps.
On gagne du temps, on est bien. Puis surtout, c'est gravé, quoi. En fait, il y a quelque chose de l'ordre du souvenir, même si c'est finalement éphémère parce que c'est du théâtre, mais c'est comme une photo qu'on refait tous les soirs, quoi, qui sera là pour toujours.
Le Grand Atelier sur France Inter.
Club, le duo canadien chantait Amaro. Pendant ce temps-là, Marie-Lou Berry est sur son compte Instagram et va rechercher le compte Instagram du Grand Atelier. Les réseaux, hein,
les
ça
réseaux,
fait partie
toujours.
De votre vie, effectivement. Je vais vous demander des conseils pour les auditeurs et les auditrices. Vincent Dedienne, Marie-Lou Berry, a repris son spectacle consacré à Jean-Luc Lagarce au Théâtre de l'Atelier. C'est jusqu'au 8 mars. Il a pris des extraits du journal du dramaturge qui est mort du sida. Il est mis en scène par Joanne Hibert. Ça s'intitule « Il ne m'est jamais rien arrivé ».
Oui, bah, moi, Vincent Dedienne, c'est quelqu'un que j'aime énormément. Moi, ce qui m'impressionne le plus avec Vincent, c'est sa capacité à pouvoir faire 15 millions de choses en même temps.
Il chante. Il est drôle, il joue.
Il peut jouer des classiques, puisqu'il a fait énormément de théâtre classique. Moi, il m'a bluffé. Enfin,
Marivaux, Tchekhov.
Ouais, c'est-à-dire qu'il peut manier tous les textes avec une heure. C'est toujours cette impression de facilité. Hein. C'est un énorme bosseur. Ça m'impressionne énormément. Donc non, je ne peux que recommander ce spectacle
qui nous rappelle
qui reprend très brièvement à l'atelier.
Oui, jusqu'au 8 mars. Mais qui évoque effectivement la vie de Jean-Luc Lagarce, son rapport au théâtre, son rapport aux garçons, son rapport à ses parents. C'est au Théâtre de l'Atelier. On va parler avec Mathilde de la série Queer qui triomphe même en Russie.
Partout.
Heated.
Heated Rivalry.
Oui, vous êtes meilleur en anglais que moi. Ça veut dire rivalité brûlante. Et
exactement.
C'est sur HBO Max. Pourquoi il faut regarder ces deux hockeyeurs qui sont à la fois rivaux et amoureux?
Et amoureux. C'est vraiment une série qui a été extrêmement bien réalisée par Jacob Tierney, qui, avec une certaine économie de moyens, raconte aussi une histoire très joyeuse sur l'amour queer. On a besoin aussi. On est tellement discriminés, on est tellement opprimés que de temps en temps, nous aussi, on a le droit à la romance à l'eau de rose. Et aussi, c'est une série qui a beaucoup, beaucoup de subtilité. Je pense qu'il faut la regarder plusieurs fois pour comprendre que c'est pas juste deux hockeyeurs qui, finalement, de sexe passent à amoureux. Je pense que ça raconte aussi à quel point des sentiments peuvent se développer dans l'intimité. Ça raconte aussi l'homophobie du sport. Ça raconte énormément de choses avec... pas beaucoup de pudeur, justement, physique, mais avec énormément de soin et de respect, justement, pour des récits queer qui nous manquent, des récits joyeux, avec, justement, une fin dans l'amour, oui, une fin dans la joie.
Où le gay ne termine pas forcément dans un cercueil à la fin.
Exactement, je pense qu'on a besoin aussi de se dire...
Il n'est pas puni.
Et puis de se dire qu'il y a encore, en fait, de l'espoir, tant qu'on s'aime et tant qu'on choisit de s'aimer et de se respecter, quoi.
Merci Mathilde, vous allez nous redire pour le plaisir le titre de cette série.
Heated Rivalry.
Très bien. On va bientôt se quitter.
Et avec l'accent français, ça donne quoi?
Heated Rivalry.
Ah oui. Voilà, parce que sinon les gens ne vont pas trouver.
On le dit comme ça, nous. Je voudrais qu'on se quitte avec votre père, Marie-Lou Berry, parce qu'on a entendu maman, Josiane Balasco. Votre père a disparu il y a quelques années. C'était un sculpteur, Philippe Berry.
Vous n'avez pas toujours été sculpteur, même je crois que la sculpture est venue sur le tard. Comment ça s'est passé?
En fait, c'est Marie-Lou qui a déclenché tout ça, d'une certaine manière. Parce qu'en fait, moi, j'ai commencé à faire de la pub, des affiches de cinéma. J'étais graphiste au départ. Ouais. Et puis, comme ça m'ennuyait fermement, je me suis arrêté de faire tout ça à un moment donné. Et je me suis lancé d'abord dans la peinture.
Ouais.
Et puis comme Marie-Lou était inscrite dans un cours de poterie, et elle ramenait toujours des trucs trop marrants, avec des machins trop marrants comme ça. Et donc voilà, ça a déclenché chez moi cette idée-là de faire de la sculpture. Parce qu'en plus, par rapport à la peinture, moi je n'ai aucune inhibition dans la sculpture.
Vous avez des limites, des freins quand vous peignez, mais pas quand vous sculptez.
J'ai trop de références dans la peinture. Et en plus... Mon problème, c'est que j'ai énormément d'idées. C'est un train qui passe sans arrêt. Donc, si vous voulez, pour arrêter une image, c'est très très dur pour moi. Alors que, bizarrement, j'ai pas ce problème-là dans la sculpture, parce qu'elle doit être délimitée tout de suite.
Ça va aller, Marie-Lou?
Oui, oui.
Je savais pas que de peintre, votre père était devenu sculpteur grâce à vous, Marie-Lou Berry, et aux petites poteries que vous rapportiez à la maison.
C'est pas grâce à moi, mais...
C'est une jolie manière de parler de sa fille.
Oui, c'est très mignon, mais je pense que surtout, c'est aussi grâce à ma mère, en vrai.
Qu'il est devenu sculpteur?
Bah, qu'il en a eu le courage et de pouvoir se faire confiance. Il faisait de la peinture, il faisait des affiches. Moi, j'ai plein de maquettes d'affiches de films à la maison parce qu'il était dans une boîte d'affichistes. Donc, mon père vient de là. Il a fait énormément de décors de théâtre aussi. Il a fait le décor de Bakri Jaoui dans Cuisine et Dépendance, je crois, de la pièce. Il a fait tous les décors de ma mère. Et je pense que c'est surtout ma mère qui lui a donné le courage de pouvoir se dire que c'était possible de faire autre chose. Mon père était quelqu'un qui n'a absolument pas confiance en lui, qui était un vilain petit canard, si vous voulez. C'est vraiment le vilain petit canard de la famille. Persuadé à juste titre, d'ailleurs, de ne pas être forcément désiré. Bon, ce qui n'empêche pas d'être aimé, mais en tout cas, de ne pas forcément être désiré. Et je pense que c'est toute une myriade de gens autour de lui qui lui ont donné les moyens, la force et le courage de pouvoir se faire confiance et de se lancer dans cette aventure de la sculpture, au-delà de juste mes poteries. Oui,
et Marie-Lou Berry, elle tient de qui? De maman Josiane Balasco ou de papa Philippe Berry?
Sur le plan de la confiance en soi, moi je pense que je suis... Ma mère dit toujours de moi que je suis extrêmement sensible. Marie-Lou est très sensible, elle pleure dès qu'il y a... D'où mon... Vraiment, j'avais une énorme confiance en moi aujourd'hui.
Vous avez un petit peu pleuré.
Disons, c'est bon, large, les doigts dans le nez. Mais moi, je dirais plutôt que c'est ma mère qui ne l'est pas assez. Mais en fait, c'est pas qu'elle ne l'est pas assez sensible, c'est qu'elle sait beaucoup mieux le cacher que moi, qu'elle est beaucoup plus forte là-dessus. Mais moi, ça m'intéresse moins d'être forte là-dessus, pour le coup. Je pense que ça, c'est plus un truc qu'on avait avant. Parce que... Étant une femme dans un milieu où c'était quand on était une femme, il fallait juste être désirable et qu'on n'avait pas envie de l'être, au-delà de pas l'être, je pense qu'on n'avait pas profondément pas envie de l'être, il fallait être très forte. Voilà. Moi aujourd'hui, je trouve que être forte, c'est un truc qui m'intéresse moins parce que j'ai fait, je trouve ça chiant. Voilà, être forte.
Pour moi, être forte, c'est se laisser pleurer. C'est accueillir les larmes.
Oui, mais tu sais, être forte dans le sens, tu vois, de. Ouais, mais attends, moi, je gère tout.
Tu veux dire être apathique.
Marie-Lou Berry, je vous remercie d'être venue. Merci. J'ai l'impression de mieux vous connaître. Mathilde aussi, et merci
avec
pour
plaisir.
Ce chant.
Quel est l'Instagram de cette émission?
Quel est l'Instagram de France Inter?
Alors, l'Instagram de l'émission, c'est Vincent Joss. Et sur Facebook, vous avez le Grand Atelier. Marie-Lou Berry est à l'affiche de Ça, c'est l'amour de Jean-Robert Charrier au Théâtre des Bouffes Parisiens à Paris. Ses partenaires sont Josiane Balasco, Riyad Gami, Lucie Baumann. La mise en scène est de Julianne Roth. David Leprince a réalisé cette émission, préparée avec Marion Guilbeault et Anaïs Boucher. Valentine Chedebois à la programmation musicale et à la technique aujourd'hui, Guillaume Roux.